Peut-on défendre Dieu ou son serviteur? Bien-aimés en Christ, ce message s'adresse non seulement à tous ceux qui se disent croyants, mais surtout aux croyants chrétiens. Parce qu'il y a aussi dans les rangs de croyants chrétiens, ceux qui agissent pareil comme ceux qui se passent actuellement dans le monde. Et cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des intégristes chrétiens qui agissent pareil. Un pasteur avait même osé, soi-disant, écrire une réponse à Satan, parce que certaines personnes ont écrit des choses invraisemblables sur Jésus. Mais attendez, le Seigneur Jésus nous a-t-il ordonné de le défendre, ou de le protéger, moins encore de le venger, même en parcourant toutes les Écritures saintes, surtout de son vivant sur la terre des hommes? Il sera difficile de trouver cette recommandation dans ce sens. Dieu, on ne le défend pas. On ne le protège pas. Dieu, on ne le venge pas. Dieu, on ne prend pas soin de lui. C'est plutôt le contraire. C'est lui, Dieu, qui nous défend, qui nous protège, qui prend soin de nous. Nous, ses enfants, et c'est lui qui nous venge. Si nous commençons à le venger, à le protéger, à prendre soin de lui, à combattre pour lui, alors il n'est plus Dieu. Ceux qui cherchent à venger, à combattre, à défendre, ce Dieu n'est pas un vrai Dieu, c'est-à-dire un faux Dieu. Voici ce que dit le vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Psaume 91, verset 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Aaron et sa sœur Mariam se sont moqués de Moïse, le serviteur de Dieu. Aucun Israélite, ni un Juif, ni un Hébreu ne s'est élevé pour défendre le serviteur de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a vengé son serviteur Moïse. Nombre 12, versets 1 à 16. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp. Après quoi, elle y sera reçue. » Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Paran. Les Hébreux ne sont pas venus casser, ni détruire ou chercher à mettre à mort Aaron et sa sœur Mariam. pour avoir critiqué le serviteur de Dieu. Mais c'est plutôt Dieu qui a fait le travail pour la défense de son serviteur. Nombre 12. Reprenons, réécoutons seulement les versets de 6 à 9. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. D'ailleurs, c'est plutôt Moïse, le serviteur de Dieu, qui a demandé pardon à Dieu de ne pas frapper Myriam. Nombre 12-13. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament de la Bible où Dieu l'Éternel a défendu et vengé ses serviteurs. D'ailleurs, Dieu a dit, « C'est à lui la vengeance. » Deutéronome 32, verset 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. 2 Samuel 22, 48 et 49. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Bien-aimé en Christ, ne tombez pas dans ce comportement, dans cette attitude, dans cette conduite, car notre Dieu est puissant. Il est l'Éternel des armées. Il n'a pas besoin que vous le défendiez. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui est aussi prophète de Dieu, qui est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire le Dieu visible, nous a donné un exemple que doit être notre attitude. Notre comportement, notre conduite dans des moments de difficulté. Luc 22, 47 à 51. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer? S'il est déjà allumé, il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il ne tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Matthieu 26, 50 à 53. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place. » Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Voilà la vérité. Cette vérité que beaucoup de croyants chrétiens, si ce n'est pas la majorité, n'ont pas cette connaissance, qui sont dans l'ignorance et ne savent pas quel Dieu ils adorent. On ne défend pas Dieu par la violence, en causant la mort d'hommes. Un croyant chrétien ne manifeste pas comme font ceux du monde. Car le Seigneur Dieu a dit ceci. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Vous trouverez cela dans Psaume 91, 15 et 16. Dans des situations difficiles, on reçoit des insultes, des persécutions, des attaques de tout genre. Évoquez notre Seigneur, car étant en toi, frère, il est avec toi dans ces moments désagréables que tu subis. Il te délivrera si réellement il est avec toi. Écoutez ce que le Seigneur a dit à Paul. Acte 18, versets 8 à 10. Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Le Seigneur dit à Paul son serviteur, « Parle toujours, c'est-à-dire annonce la bonne nouvelle. Enseigne la vérité, la justice, l'amour. Parle, ne crains rien, je suis avec toi. Et Dieu ne permettra pas à quelqu'un de te faire du mal, car il est avec toi. Combien de fois Dieu a délivré son serviteur Paul dans les moments les plus difficiles. » Acte 12, versets 5 à 18. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Acte 16, versets 22 à 35. La foule se souleva ainsi contre eux, et les préteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier : Relâche ces hommes. Tous ces exemples montrent bien la main de Dieu pour protéger et défendre ses envoyés partout où ils sont. Genèse 15:1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit : Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Le Seigneur Dieu est notre bouclier et notre protecteur. Ce n'est pas à homme mortel de défendre Dieu ou le venger. Le croyant chrétien étant le disciple du Seigneur, doit faire ce que Dieu par Jésus-Christ lui ordonne. Matthieu 17:5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Jean 14:6. Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur nous dit ceci, Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Être témoin, c'est le révéler par la bouche et le sanctifier par le corps, c'est-à-dire par le comportement, la conduite, l'attitude. Les gestes et les actes qu'on pose tous les jours vis-à-vis d'un prochain ou semblable qui glorifie et exprime la personnalité de Dieu par Jésus-Christ. Pourquoi par Jésus-Christ ? C'est parce que Jésus, qui est le corps du Christ, est la personnalité de Dieu invisible. Car c'est par lui que nous avons connu qui est Dieu. Colossiens 2:9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 1:15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1:3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est pour cela notre Dieu nous demande d'être ses imitateurs, à l'exemple de Jésus-Christ. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous ne pouvons plus avoir le comportement des hommes du monde. Éphésiens 4, versets 20 à 32. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La violence, la méchanceté ne doivent plus faire partie de notre comportement, car les actes de la violence, de la méchanceté, doivent disparaître de notre comportement, notre attitude et notre conduite. Nous devons avoir un comportement sain. 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints car je suis saint. » La violence, la méchanceté ne viennent pas de Dieu. Les croyants chrétiens doivent manifester l'amour, la paix, la justice et la vérité. Un croyant ne doit pas se faire justice, il doit pardonner. Le croyant chrétien est celui qui fait la promotion de la paix et de l'amour. Le croyant chrétien doit être l'apôtre de l'amour, de la paix, de la vérité et de la justice. La violence, la méchanceté ne feront jamais partie du monde des disciples de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car les disciples de Jésus-Christ sèment la paix et non la guerre. Ceux qui exercent la violence et la méchanceté sont les enfants de la nuit, c'est-à-dire des ténèbres. Mais le croyant chrétien est l'enfant du jour. 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 11. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Voilà, frères et sœurs en Christ, ce message que le Seigneur nous a mis au cœur pour vous exhorter et que le Seigneur vous garde. Gloire à Dieu.